Ce que vous venez d'entendre, chères auditrices, chers auditeurs, de Remue Ménage, eh bien, c'est un chœur de en Tanzanie et qui chante une chanson pour prévenir contre le sida. Le thème de la chanson, restez fidèles. Alors bon, ça c'est eux qui choisissent, c'est leur choix. Mais en l'occurrence, on voit que même en Tanzanie, et on se pose la question de la santé, par exemple, du sida. Et pourtant, Anne-Marie, vous constatez justement à la fin de cette liste de revendications à propos de la santé des femmes, que en 1996, eh bien une question aussi cruciale que la santé des femmes face au sida n'apparaît pas dans les résolutions du Congrès donc de 1996. Alors qu'on pourrait se dire qu'avec l'actualité des programmes de prévention et la nécessité absolue de parler des femmes, dans la santé des femmes face au sida, c'est quand même étonnant que ça n'apparaisse pas. Alors, ça, c'est aborder la fin de la chaîne. Et puis, tu viens d'aborder, toi, le début de la chaîne, qui était de constater qu'effectivement, dans le premier congrès, eh bien, on parlait de l'honorabilité de la profession d'infirmière, qui était à la fois qu'on essayait de rendre attrayante pour les femmes bourgeoises, comme tu disais, mais qui était surtout pratiquée par les paysannes, etc. Parce que pratiquement, on utilisait les aides infirmières, les infirmières comme des domestiques, à part les femmes très saintes et très engagées, qui étaient les nonnes, qui principalement s'engageaient dans cette tâche jusque-là. Et puis, on va voir que ça va rester une question importante au cours des congrès, parce que le deuxième congrès aussi, hein, reparle de ça. On dit de nouveau, faut essayer que la profession de soins infirmiers soit pas assimilée à celle de domestique. On voit que ça reste une préoccupation, hein, qu'on parle toujours pas d'autre chose. On parle de profession pour l'instant et on ne parle pas de la femme et de la santé de la femme en l'occurrence.
Oui, ça m'a beaucoup frappé. Et pourtant, il y a en 46, une femme qui était médecin, Hedwig Walder, médecin à la polyclinique psychiatrique de Zurich, qui a amené pour la première fois la question de l'interruption de grossesse.
Ça, c'est assez fou qu'elle travaille dans un hôpital psychiatrique,
ouais,
quand même.
Exactement, ouais, exactement. C'est que là qu'on commençait à poser cette question-là. Donc, c'était loin aussi d'être possible de faire une prise de position collective. Les femmes, en 1946, étaient très timides. Ça restait une question très secrète que chaque femme devait résoudre pour elle-même, toute seule. Et c'est vrai que ce n'est que en 1975 que les femmes, avec un autre rapport à leur corps, et justement en démystifiant le naturel, tout court, je pense, qui faisait que c'était possible de parler du droit à l'avortement et que c'est devenu une question de débat public et aussi une revendication collective.
Donc à cette époque-là, le débat sur l'avortement, comme on l'a dit tout à l'heure, va provoquer vraiment un bouleversement beaucoup de chahut dans le déroulement de ce congrès en 1975, puisque ce thème n'a été défendu que parce que les groupes féministes, donc les groupes d'inspiration des MLF en France, l'ont posé sur le tapis, elles-mêmes qui n'étaient officiellement pas invitées à participer aux divers groupes de travail de ce congrès. Et c'est vrai que là, non seulement on parle avortement, mais on parle sexuel. Ce qu'on n'avait jamais évoqué jusque-là. On commence à parler publiquement de la violence, on parle de l'homosexualité, on parle du viol, du harcèlement sexuel. Effectivement, ces thèmes très nouveaux qui ont trait à la fois le corps intime, mais que l'on met, comme tu le disais tout à l'heure, sur la place publique parce que le privé est devenu public entre-temps. Et puis alors, bon, comme on le disait, comment se fait-il qu'en 1996, on ne parle pas du sida? Tu me le disais hors antenne, tu n'étais pas au congrès, je n'y étais pas non plus, ça nous semble difficile de comprendre. Bon, vous faites cette remarque que apparemment c'est peut-être parce qu'il y a eu déjà bonne entente entre les groupes de santé des femmes et prévention sida, puisque l'Office fédéral de la santé publique a déjà, semble-t-il, pris au sérieux les femmes et que entre guillemets, il n'y aurait plus besoin que le Congrès prenne des résolutions à ce sujet. Est-ce que vraiment on peut analyser les choses comme ça?
Moi, je ne connaissais pas et je ne connais pas quelles ont été la représentation des femmes, s'il y avait même un groupe Femmes et Sida au Congrès 96 qui aurait pu amener la chose.
Je crois que oui, en l'occurrence. Ah, mais oui. Bon.
Alors, qu'est-ce qui fait? Moi, je ne sais pas. Pour moi, ça reste un point d'interrogation. Est-ce que c'est quand même encore tabou? Hein? Est-ce qu'on n'arrive pas, entre femmes, de parler du sida dans une plateforme si officielle? Vraiment, moi j'ignore.
Mais je trouve que ce que vous écrivez dans la brochure aurait plutôt tendance à donner comme analyse le fait que les femmes n'ont plus besoin de se bouger sur la question parce que, de toute façon, l'institution fédérale qui s'occupe de cela a déjà accepté l'idée qu'il faut parler des femmes. Donc, les femmes n'ont plus besoin de se battre. Alors, ça semble quand même un peu bizarre parce qu'on sait bien que quand l'institution s'empare de quelque chose, ça ne veut pas forcément dire qu'elle s'en empare de la façon dont les femmes, en l'occurrence, auraient envie qu'elle s'en empare.
Tout à fait. Alors, c'est un point d'agenda à être scrupuleusement suivi, c'est sûr.
Alors, pour conclure ce survol très rapide, parce qu'on espère bien que vous aurez envie de vous plonger dans la brochure des centaines de résolutions et une petite révolution publiée par l'association Archives de la vie privée, que vous aurez envie de vous plonger dedans, parce qu'il y a plein d'anecdotes, il y a plein de citations. Quand on lit certains extraits de sujets, c'est vraiment, mais vraiment, des fois, moi je lisais ça sur une terrasse de bistrot, je pouffais de rire toute seule. Entre autres quand je lisais le texte du journaliste du Journal de Genève dont on parlait tout à l'heure. Et il vaut vraiment la peine de se plonger à fond dans ces diverses citations et ces divers récits et passages en revue de ces 100 ans de lutte des femmes. Il y a un dernier chapitre que nous avions envie d'aborder, Anne-Marie Kepelier et moi-même, c'est celui des perspectives politiques. Parce que c'est bien beau les commémorations, mais ça ne sert à rien de faire des grandes fêtes du souvenir si ça ne nous pousse pas un petit peu aux fesses pour regarder vers l'avenir. Et Anne-Marie Kepelier et Sabine Lorenz ont, elles aussi, écrit un chapitre qui aborde le thème perspective politique. Et en cela, elles ont été aussi relayées d'une certaine façon par Marianne Frischnesch, Madame Égalité du Bureau de l'égalité homme-femme à Genève, lors de ce vendredi. Alors, peut-être d'abord, Anne-Marie, qu'est-ce qui vous tenait à cœur d'affirmer dans ce chapitre sur perspective politique, Sabine Lorenz et toi?
Moi, je pense que autant les associations féminines d'antan qui sont en train de, des fois, disparaître aujourd'hui du fait que les générations des femmes qui les ont portées sont en train de disparaître, qu'elles nous quittent, et du fait aussi que des associations et groupes féministes d'aujourd'hui sont toutes les deux, pour moi, une expression de culture politique non gouvernementale. Et elles ont, selon leur temps, trouvé des manières d'articuler des questions qui n'étaient pas présentes et qui ne sont toujours pas présentes dans la scène politique officielle. Et avec l'installation des bureaux de l'égalité dans les administrations cantonales et dans l'administration fédérale, il y a des femmes qui se disent féministes, la plupart, pas toutes, hélas, elles sont là et essayent d'accueillir ces questions qui sont brûlantes dans le quotidien des femmes. Et je pense que les femmes dans les associations féminines dans le temps les ont formulées différemment que nous aujourd'hui. Et je pense autant du côté des groupes de femmes féministes, des associations féminines et des bureaux de l'égalité, il y a une nouvelle place à redéfinir comment intervenir dans le politique. Et je pense dans la déconfiture politique actuelle, c'est d'autant plus important de ne pas perdre la lucidité politique et qu'est-ce qu'on peut jouer à partir des différentes places où on se trouve, soit institutionnelle, soit autonome. Et je pense que tout le puzzle, il est à prendre en considération. Et moi, j'ai lancé vraiment autant aux associations féminines qu'aux associations féministes et au bureau de l'égalité la question de bien redéfinir leur place pour ne pas sombrer et pas se casser les pieds, parce qu'on a besoin de trouver une place très lucide dans l'actualité.
Alors, il y a des femmes qui réfléchissent déjà à ce type de perspective, en tout cas sur la place de Genève. C'est le regroupement au départ tout à fait informel de femmes qui avaient envie de continuer à réfléchir qui s'est appelée Femmes, Féminisme et Politique, parce qu'elles avaient clairement envie de lier le féminisme aux politiques et qui se sont réunies il y a 2 ans déjà pour une première rencontre générale. Se sont revues à l'automne dernier et puis tout au long de 95-96 se seront vus à plusieurs fois sur des thèmes travail, santé, comment on pouvait appeler ça, vie quotidienne. Et puis je crois qu'il y avait encore un 4e thème, je ne me souviens plus. Bon, j'ai oublié maintenant. Et entre autres, le thème santé va être rediscuté très prochainement. Donc, si jamais, nous vous annoncerons ces nouvelles rencontres. Si ça vous intéresse de faire partie de ces groupes de réflexion, ce sont des femmes qui sont d'une façon ou d'une autre intégrées dans des groupes d'action, si l'on peut dire, ou de pression, mais qui sentent le besoin, comme tu l'as dit, de réfléchir comment articuler les choses, comment avancer, pas se laisser à la fois prendre par la revendication au jour le jour, réfléchir aux perspectives, et puis en même temps ne pas s'enfermer et retrouver la force d'un mouvement global des femmes. Mais Anne-Marie-Anne Frischnes, qui était avec vous vendredi 13 septembre, Anne-Marie a tenu à ta demande d'ailleurs à préciser quel rapport il y avait justement entre ces groupes de femmes, et puis non gouvernementales, non institutionnelles, et puis un bureau de l'égalité tel que celui de Genève, qui apparemment a une grande spécificité par rapport au reste de la Suisse. Tu peux nous le redéfinir ? Pourquoi Marianne Frischnes tenait-elle tant à dire « parlons, Genève c'est Genève et puis c'est pas toute la Suisse ». Quelle grande différence voyait-elle, si tu peux nous le raconter ?
Si je l'ai bien compris, premièrement, je pense qu'il faut dire qu'elle-même, elle est sortie quand même de ces femmes qui étaient dans la mouvance du MLF. Elle a travaillé dans un projet de femmes ou dans plusieurs projets de femmes, notamment F-Info. Et je pense que c'est important que c'est quelqu'un qui a eu une expérience dans cette mouvance de 68, qui ait eu le poste d'une Madame Égalité. Ce qui n'est plus forcément le cas dans d'autres cantons romands. Et donc, elle connaît les deux réalités. Et c'est pour ça qu'elle est aussi dans une position d'écoute et de négociation particulière, parce qu'elle a cette sensibilité-là. Et je pense qu'il faut la laisser parler, comme elle a parlé vendredi, pour nous rappeler comment elle voit son rôle à elle.
Alors tout de suite, Marianne Frischnes, vendredi, à la commémoration du centenaire du premier congrès national des intérêts féminins.
Je voudrais quand même commencer par vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'ai pris mes fonctions au bureau d'égalité, c'est-à-dire il y a bientôt 10 ans, un des premiers documents que j'ai reçus sur ma table de travail, ça a été les résolutions du premier congrès des intérêts féminins de Genève. Et lorsque j'ai dû établir un tout petit peu le cahier des charges ou les missions du bureau d'égalité, eh bien je n'ai eu au fond qu'à me baser, en tout cas dans les grandes lignes, sur ces résolutions de 1896, puisqu'au fond, les mêmes questions fondamentales se posaient en 1987. C'est vrai que cette apparition au fond d'un bureau interne à l'administration cantonale, chargé au fond de promouvoir cette idée d'égalité, a posé des questions et des problèmes vraisemblablement d'adéquation entre l'action institutionnelle et l'action associative. Ça ne s'est pas réglé du jour au lendemain. Je crois qu'effectivement il a été nécessaire de trouver un modus vivendi qui s'est adapté, je dirais, au fil des années, compte tenu des réalités du moment. Et je me souviens notamment des premières réactions des associations féminines genevoises qui ont été de dire le bureau va nous prendre notre travail. Il a donc fallu là déjà entamer des discussions, se mettre d'accord sur les missions de l'un par rapport aux autres, pour finalement, je crois, aboutir à un consensus et en tout cas à une adéquation des actions de l'un par rapport aux autres. Après 10 ans d'expérience, je pourrais dire qu'il est pour moi, en tous les cas, indispensable qu'un tissu associatif féminin existe et soit même fort parallèlement à l'existence d'un bureau d'égalité. Et ceci à plusieurs niveaux. Un bureau d'égalité peut fonder au fond ses revendications à un niveau politique uniquement sur les demandes qui vont émerger justement des associations féminines. Elles sont donc là comme réservoir au fond des revendications vraisemblablement les plus légitimes. L'autre niveau, je dirais aussi, c'est que les associations féminines sont nécessaires à partir du moment où le bureau d'égalité ne peut plus assumer certains rôles, et notamment ce rôle de pression politique, ce rôle éventuellement d'actrice encore plus dérangeante par rapport au système politique, ce qui fait que le bureau d'égalité doit aussi apprendre à s'effacer par rapport aux actions menées par les associations féminines. Donc tantôt, il faut collaborer très étroitement. Parfois, il faut que les unes et les autres s'effacent au profit de l'action décidée. Et je dirais que d'une façon générale, le bureau d'égalité peut toujours servir et a servi jusqu'à aujourd'hui de courroie de transmission entre les revendications des associations et le pouvoir politique. Je crois que toutes les actions menées par le bureau d'égalité ont pu l'être grâce à cette... Et je crois que c'est spécifique à Genève, mais je dirais grâce à ce potentiel qui existe néanmoins au niveau du tissu associatif genevois. On s'est renforcé vraisemblablement dans nos actions mutuelles. Je dirais même au fond que le bureau a permis, et je crois que c'est aussi spécifique à Genève, un élargissement des associations féminines, a permis notamment à certaines associations moins militante au niveau politique, mais défendant notamment l'histoire des femmes, ou la culture au féminin, ou les échanges avec l'international, eh bien là, il me semble en tous les cas qu'une institutionnalisation de ces problèmes a permis à ce secteur-là, je dirais, de l'égalité de se développer. Et je crois que c'est spécifique à Genève, parce que justement l'autre jour, j'avais des contact avec mes collègues de Fribourg, où là, notamment le centre de liaison des associations féminines fribourgeoises ferme sa porte en disant « le bureau fait ça très bien, nous n'avons plus ». Non pas comme une critique, mais plutôt comme une reconnaissance du travail du bureau d'égalité, n'a plus au fond sa raison d'être. Genève est, je dirais, dans un mouvement totalement opposé. Plus il y aura d'association, plus il y aura un mouvement de femmes fortes, et plus je crois le bureau pourra continuer à exister, pourra continuer à collaborer et pourra tenir une place, si ce n'est pas complètement admise et reconnue par le pouvoir politique, mais en tous les cas, je dirais, indéracinable.
Alors, des centaines de résolutions et une petite révolution. Le titre de la brochure que vous pouvez obtenir, où Anne-Marie, où nos auditrices et auditeurs peuvent-ils trouver cette brochure publiée à l'occasion du centenaire du premier congrès national des intérêts féminins en 1896, 100 ans, 1996.
Eh bien, elle est disponible dans les librairies qui sont de la mouvance, librairie inédite à Carouge, le kiosque du boulevard à la rue de Carouge et la librairie suisse au 107 toujours. Et évidemment dans notre bureau de l'Association pour les archives de la vie privée de rue de la Tannerie à Carouge.
Alors, dans quelques instants, après avoir écouté Renette Loranaise, eh bien, nous discuterons juste un tout petit moment de l'atelier Affaires à suivre qui est organisé au sein du bureau de l'égalité pour, je crois, des femmes en fin de droit au chômage, c'est ça Anne-Marie, auquel a participé Patty Gonin, à qui nous devons tous les enregistrements des femmes qui ont parlé ce vendredi 13 septembre à l'occasion de cette commémoration. Merci Patty, et dommage qu'elle n'ait pas pu être des nôtres ce soir. Donc c'est grâce à elle que nous avons pu faire ces enregistrements, puisque je ne pouvais pas être là lors de cette commémoration. Alors Anne-Marie nous expliquera en quelques mots en quoi consiste l'atelier Affaires à suivre, parce qu'elles ont participé de façon très active à la réalisation de la brochure. Alors tout de suite d'abord, Renette Loranaise.
حاكمي في يدي نحتاج ولا الحكام في غيري مكان في ظني باب لمحبة خدا
Renette était petite fille est devenue aveugle et ses parents l'ont entourée de musiciens qui l'ont appris à chanter, à jouer du luth et aujourd'hui elle est la chanteuse merveilleuse que vous entendez en ce moment. Anne-Marie Kepeli, alors Anne-Marie, tu pourrais nous rappeler s'il te plaît, qu'est-ce que c'est ou nous dire ce que c'est que l'atelier à faire à suivre auquel participe Patty Gonin qui a enregistré pour nous toutes les interventions des femmes lors de cette commémoration du centenaire du premier congrès des intérêts féminins et qui a aussi participé à la réalisation de cette brochure des centaines de résolutions, une petite révolution.
Marianne Frischknecht a tout à l'heure parlé des moments où l'un ou l'autre côté doit s'effacer, soit les associations féminines, soit le bureau de l'égalité. Moi, je pense que l'atelier Affaires à suivre est un moment de complicité très visible entre des associations féminines et féministes et le bureau de l'égalité. On avait envie de ne pas laisser sans moyens tous ces projets que EFI International, l'antenne
Espace Femmes
International, avait, ce que les archives de la vie privée avaient aussi dans leur tête, et Femmes de théâtre avaient dans leur tête. Et je pense le fait qu'on s'est inscrite et qu'on s'est servi de cette possibilité que l'OFIAMT, à travers toutes les instances qui s'occupent des chômeurs et des chômeuses dans ce canton, offre de prendre cette possibilité pour redéfinir et que concrétiser des projets qu'on avait. Et je trouve très beau que, par exemple, Patty, elle ait pu venir avec ses compétences de femme qui travaille avec le son et de nous être vraiment précieux dans ce petit moment de célébration. Moi, j'ai plutôt suivi les femmes qui ont réalisé la brochure. Notre pari était d'organiser cette célébration et de faire une brochure pour marquer le coup. Et c'était un travail que des femmes ont réalisé sans être historiennes. Je les ai encadrées, je les ai mis sur des pistes de travail. Il y a un autre aspect des archives qui est celle de la collecte de ces traces écrites. Nous avons formé sur le tas une aide archiviste qui a fait un travail absolument superbe. Et je pense que les femmes qui travaillent dans l'atelier Affaires à suivre peuvent découvrir des potentialités dans leur travail professionnel qu'elles amènent et qu'elles peuvent développer dans les différents types d'ateliers.
Très concrètement, par exemple, Anne-Marie, tu peux nous dire ce qu'a fait une des femmes que tu as encadrées, pour qu'on se rende compte
Une des femmes, oui, elle a fait la première partie, pratiquement, de la brochure. Elle est allée chercher dans les bibliothèques les documents qu'il fallait. Elle est allée interviewer la présidente du dernier congrès. Elle a trouvé le concept pour la première partie de cette brochure. Toujours en négociation avec nous, les historiennes, qui avions peut-être un petit peu plus la vue générale. Et puis une autre personne, elle a préparé entièrement la célébration. De la prise de contact, les public relations, c'est elle qui l'a réalisé. Et je trouve qu'on a eu beaucoup de chance. C'était des femmes très qualifiées, avec beaucoup de sensibilité, qui ont été très complices aussi de notre projet. Je trouvais ça formidable. Et là où je trouve qu'il y a la grande limite, c'est de pouvoir donner une place plus institutionnelle, moins fragile, pour que ce type de collaboration puisse continuer.
Ça, j'imagine bien. En tout cas, Anne-Marie, merci beaucoup à toi d'être venue participer à notre émission d'aujourd'hui. Je ferai remarquer à nos auditrices et auditeurs que c'est Anne-Marie Kepeli elle-même qui m'a proposé de faire cette émission. Et ça, pour nous, c'est très important. Je vous le rappelle que Radio Zone Onde Femmes, c'est un espace qui est réservé aux femmes. Et c'est bien sûr nous, Viviane Gonick, Marjolaine et moi-même qui proposons la plupart des émissions. Mais c'est fondamental que vous ayez le réflexe de nous proposer des émissions et des contenus quand vous avez des choses à dire vous-même, quand vous savez qu'il y a des événements qui se passent et qui méritent un intérêt. Et dans ce sens-là, Anne-Marie fonctionne à merveille dans la façon dont nous espérons. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui lui semble important, dring, téléphone, et elle nous propose une émission. Et ça, c'est vraiment tout à fait dans le fonctionnement que nous espérons encore plus rendre performant année après année. Et ça fait déjà un bon moment que ça dure, n'est-ce pas, Viviane, qui s'installe tranquillement les oreilles, la lune dans ses oreilles. Alors, Anne-Marie, on peut rapidement rappeler aussi qu'en tant qu'association des archives de la vie privée, vous faites un appel aux femmes de Suisse romande et frontalière pour qu'elles ne jettent pas tous les vieilles paperasses de leur grand-mère, grande-tante et amie, parce que ces documents vous sont précieux, surtout les journaux intimes, les manuscrits, les vieilles lettres, les agendas, enfin toutes ces choses qui témoignent de la vie quotidienne et qui peuvent être précieux pour raconter l'histoire des femmes au quotidien. Et elles peuvent vous remettre en soit vous téléphonant au 022 301 02 52, soit en vous écrivant 2 rue de la Tannerie, Association des archives de la vie privée.